c'est trois écritures de la même chose. Ça. C'est l'équivalence tautologique. Hein. Bon. Alors, ça veut dire quoi que I de P, l'application I de P est égale à P. Bon. Et bien ça, c'est équivalent, je peux vous démontrer que c'est équivalent à ceci. Cette phrase qui est tautologique, elle est équivalente à celle-ci qui est aussi tautologique. Mais cette phrase, elle est tautologique à condition que je prenne. Alors, écoutez, depuis un moment, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que ce 1 et ce 0 que vous nous avez balancé au début, alors que maintenant vous nous écrivez un grand 0 et un grand 1? Voilà, la logique, elle est tout le temps en train de se promener dans cette espèce d'écart entre la vérité et la vérité nécessaire. Et Frege a beau hurler, de toute façon, il dit « s'occuper de la vérité, pas seulement nécessaire, c'est de la psychologie ». Et il a tort, parce que pour arriver à construire ces énoncés valides de la vérité nécessaire, il faut faire ce chemin. C'est ça ce que Lacan appelle « faux le temps ». Faux le temps, parce qu'en plus il reproche à Boulle d'interpréter les énoncés qui ne sont pas nécessaires comme des énoncés qui disent « cette phrase, elle dit P implique Q » dans les instants où P implique Q est vrai. C'est-à-dire que cette phrase, elle n'écrit P implique Q, dit Boulle, que dans les moments où... C'est dans trois moments. Il y a trois modèles où cette phrase est vraie. P implique Q, ça s'écrit seulement dans ces trois cas. Ici, ça ne s'écrit pas. D'ailleurs, P n'est pas égal à Q, n'implique pas Q ici. Bon. Donc, Boulle, qu'est-ce qu'il fait dans son explication? Il fait rentrer, il essaye de nous rendre lisibles les énoncés qui ne sont pas tautologiques. Et qu'est-ce qui nous fait rentrer? Le temps. Et Aristote, il avait depuis longtemps fait rentrer les énoncés apophantiques, hein, qui sont les énoncés constatifs, les énoncés qui sont vrais ou faux, mais qui sont pas modaux. Hein. Vous voyez, dans l'étourdi, Lacan utilise hein, ce système d'opposition apophantique-modale. Hein. C'est très important. Ça, c'est modal. La validité, c'est modal. C'est nécessaire. Ça, c'est pas modal. Ça, c'est pas modal. C'est apophantique. Et Lacan, il dit, le désir est apophantique et la demande est modale. C'est le caractère inconditionnel de la demande d'amour, le caractère modal. Inconditionnel de la demande d'amour. C'est le caprice. Je piétine. Parce qu'il y a du désir qui commence à se glisser là-dedans, dans la demande, dans l'amour. Bon, c'est pour ça que Lacan, il dit que le modal, la demande est modale. Alors que le désir est apophantique. Il faut réfléchir, le désir... Mais ça ne veut pas dire pour autant que le désir il est relatif. Moi je dis qu'il n'est pas, modal, il n'est pas nécessaire, il est absolu, il est séparé, il est incomparable. Bon, mais seulement alors là, il faut un long chemin pour arriver à construire ça. C'est le chemin que je vous propose avec la séparation, l'aliénation et la séparation. Donc j'arrête sur la logique classique, tout ça. Là vous voyez, on est intrinsèque, on est dans l'intrinsèque de la logique classique. Ça se réduit à ce coup. Alors je vais dire que je montrerai que voilà la formule qui permet de démontrer que cette phrase-là, numéro 1, elle est équivalente à cette phrase ici, qui est numéro 0. 1 est équivalent à 0. Pourquoi? Ben vous ferez la table de vérité, je vais arrêter la logique classique là-dessus. Vous voyez, vous pouvez démontrer en logique avec des tables de vérité, avec deux variables. Comme celle-là. Vous pouvez démontrer la chose suivante. Vous pouvez démontrer que non Q implique Q est tautologiquement équivalent à P implique Q, équivalent à Q, pardon, ceci étant équivalent à P. Voilà. Donc ça, c'est une équivalence. Hein. Comment? Non Q implique Q, équivalent à P implique Q, équivalent à Q. Ça, c'est une thèse. Faites la table de vérité à partir de deux distributions de valeurs de vérité, de quatre distributions de valeurs de vérité. Vous avez deux variables, vous avez quatre possibilités, quatre modèles différents de la vérité apophantique, et vous allez voir que pour n'importe quelle distribution de vérité sur P et sur Q, ceci va vous donner quelque chose de vrai. Ok ? Bon. Et bien là-dedans, regardez, remplacez Q par vrai. Si vous remplacez Q par vrai, ici, c'est non vrai. Un Q de vrai équivalent à P équivalent au vrai équivalent à P. Alors j'ai employé la lettre vrai, c'est aussi tautologique quel que soit P. Vous voyez, P reste ici une variable. Hein. Ici vous avez une variable. J'ai employé vrai pour ne pas employer mon écriture à moi technique du vrai. Mais le vrai en question, c'est celui-là. Ce vrai, c'est-à-dire le. Alors, ce vrai, vous voyez, c'est le 1. C'est le 0. C'est le 1, le vrai. Et donc le non-vrai, c'est le 0. Hein? La négation de ça, c'est ça. Alors, si j'écris ça avec mes symboles de vrai, j'ai vrai, c'est 1. Non-vrai, c'est 0. Vous avez 0 implique 1 qui est équivalent à la phrase de Tarski, à la phrase de Petit Hans. P est équivalent à 1, c'est équivalent à P. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'écrire que P est vrai parce que P, il est égal à P est vrai. Regardez, P, il est tautologiquement équivalent à P équivalent au vrai. Je dis P équivalent au vrai, c'est dire que P est vrai. P est vrai, c'est équivalent à P. C'est pas la peine de. Alors, Frege, il a très bien vu ça, vous voyez, avec son acharnement à propos de la vérité. Et il dit cette chose absolument juste et merveilleuse. Il dit la vérité, lui, pas comme Kant, hein, il n'évoque pas un bouc, et fait de branler les boucs, mais des choses obscènes. Mais Frege, il dit ça beaucoup mieux. Il dit la vérité, écoutez, ça ne sert à rien de dire que quelque chose est vrai. Parce que ça n'ajoute rien à la vérité de ce que vous avez dit. C'est exactement, hein. Et ça ne sert à rien d'écrire ça, parce que c'est exactement l'équivalent à ça. Suffit de le dire pour que ce soit vrai. Alors, le suffit de le dire, c'est moi qui l'introduis. Parce que quand je dis suffit de le dire, je vous glisse l'énonciation subrepticement sans vous tromper, mais je vous le signale quand même. Faites gaffe, c'est moi qui introduis. Suffit de dire. Suffit de dire, c'est l'énonciation. Mais c'est un fait. Vous voyez, c'est donc l'écriture et les lois logiques et les tables de vérité qui nous disent que finalement, quand on parle, ça doit être vrai. Et ça doit être vrai nécessairement, comme le dit Frege, pas psychologiquement, comme le dit Boulle. Donc la fonction phallique, c'est, l'enfant, il s'en aperçoit. Il y a quelque chose de l'écrit qui confirme ce que tous les mômes vont vous dire, que pendant la période de Dickens, c'est pas là. Ah, je vois pas le pénis de maman, mais il est là quand même. Oui. Même s'il n'est pas là, il est là. Comment est-ce qu'il dit? Il regarde sa petite sœur dans le bain, il dit ah, elle est toute petite. Hein, elle a un fait pipi qui est tout petit. Et elle va grandir, il va devenir grand. Alors Freud, il dit même là, dans les trois notes qu'il fait à propos de cette remarque de Hans, il y en a deux qui sont excellentes. C'est la première remarque que fait Freud, c'est dire cet enfant n'est pas stupide. Tous les enfants disent ça, garçons et filles. Bon, pas seulement à propos de leur petite sœur, mais même à propos de leur mère, à propos de tout le monde. Bon, les enfants disent ça. Ce petit garçon n'est pas débile. Il est tout à fait intelligent. Et arrêtez de le prendre pour un crétin, comme les primitifs, soi-disant, on les prend pour des crétins parce que ils ont une civilisation du mythe, de la parole. Bon, les enfants, ils sont dans la parole. Mais ils ont capté quelque chose du langage au travers de cette dimension de la vérité. Ils rentrent dans le langage avec cette dimension de la vérité. Le malentendu des parents. Ils s'entendent pas crier, ils se rendent pas compte qu'ils parlent, justement. Et ils se rendent pas compte des parents qui parlent, parce que quand on parle, vous voyez, il suffit de le dire pour que ce soit vrai. Et ça s'écrit en logique. Alors vous allez me dire, mais ça, c'est très savant, c'est plus tard. Eh ben non, vous voyez que nos savants, aujourd'hui, ils sont dans leur période oedipienne. Ils sont encore comme Hans. Ils croient qu'il suffit de parler, c'est ce que veut faire comprendre de la vérité. Frege, vous voyez. Il dit, la vérité, ça sert à rien de dire que quelque chose est vrai, puisque ça ajoute de rien à la vérité de cette chose. Ça veut dire, je suis dans l'Oedipe, j'ai ma mère qui a un phallus, même s'il n'y est pas, il est là. Et même s'il est, et quand il est là, c'est pas la peine qu'il soit là, parce que de toute façon, il y est. Donc ma petite sœur, elle a un fait pipi, parce qu'on ne le voit pas, mais c'est parce qu'il est tout petit, elle va grandir, il va devenir grand. Et Freud, qu'est-ce qu'il ajoute comme commentaire? Alors, deuxième commentaire de Freud, d'abord, c'est, il dit, bon, finalement, il ne se conduit pas plus mal qu'un philosophe de l'école de Wundt. Puisque Wundt, l'école de Wundt dit à Freud, l'inconscient ne peut pas exister parce que le psychisme est conscient. Donc psychisme égale conscient équivaut à psychisme. Donc il n'y a pas de psychisme inconscient possible. Et ils n'ont pas tort, hein. Parce que une conséquence de cette phrase,
je vais effacer les valeurs ici. Une conséquence de cette phrase, vous voyez, c'est ça, c'est que P, si P est équivalent à non-I, c'est-à-dire au faux, hein, et bien ça, c'est équivalent à non-P. Donc, transcrivez ça, parce que de là, vous pouvez déduire ça. Vous mettez une négation ici, il y en a une là, vous allez voir une table de vérité, c'est une tautologie. Et vous allez voir que P équivalent au vrai équivalent à P, ça sert à rien de dire quelque chose est vrai parce que c'est la même chose que de le dire. Et bien, c'est moi qui ajoute à l'opérateur que c'est la même chose que de le dire. Parce que là, c'est écrit, puis s'il y a écrit simplement P, est-ce que quelqu'un l'a dit, est-ce que quelqu'un l'a écrit, tout ça, on peut discuter, hein, si on veut finaliser, si on veut jouer les esprits forts. Mais les enfants, ils ont beaucoup d'autres choses à faire que de jouer les esprits forts, faire les petits cons, les prétentieux. Ils s'intéressent à ces questions d'une manière formidable. Et Wundt, il dit, il a raison, Wundt, contre Freud. Le psychisme est non conscient. Si vous avez un psychisme inconscient, le psychisme est non conscient, alors c'est équivalent au non-psychisme. Il a raison, Wundt. Il faut d'abord accepter que Wundt a logiquement, classiquement raison pour pouvoir défendre une position psychanalytique sans que ce soit un système de défense ou une caricature. C'est-à-dire, pour pouvoir assumer Freud, il faut voir que Freud a tort, hein, parce que Wundt a raison. Mais finalement, c'est Freud qui a raison. Alors pourquoi ? Ben parce qu'il y a tout un truc qui s'appelle l'énonciation, et Freud ne le méconnaît pas, hein, et que l'inconscient n'est pas l'inconvénient. Alors voilà, regardez, moi je vous propose, je l'ai déjà fait, donc je vous propose de voir que Freud a raison. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire ça comme ça. On peut écrire dans une logique modifiée que P projeté dans une logique intrinsèquement classique, mais projeté dans une logique plus grande que je vais appeler UV. Je vais l'appeler UV. Voilà. Phi de UV de P est équivalent, moyennant UV ici dans ce connecteur, à une certaine négation que je vais appeler je vais mettre ici XY de I. Hein. C'est équivalent à, alors là ici je vais mettre phi de I, excusez-moi, j'ai phi de I, il ne faut pas que je dise phi UV de I. Vous voyez, ça devient compliqué. Hein. Est équivalent UV, hein, à un nom ZT de phi de P, de phi UV de P. Bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous écrire là, cette formule ? Je suis en train de montrer qu'on peut écrire logiquement à propos d'une logique classique comme celle-là, à condition de la modifier grâce à U et V. On peut voir que la valeur projetée par psi de phi et de V, équivalente à cette logique modifiée qui est intrinsèquement classique, que je vais vous montrer maintenant, c'est ça la difficulté, c'est vous la montrer. Donc, à ce moment-là, le fait de dire que phi de P est la négation de phi de I, ça veut dire que c'est inconscient, c'est non conscient dans UV, c'est non conscient dans UV, c'est équivalent à une autre négation. Vous voyez, il y a une négation XY ici et il y a une négation ZT ici. Et ça veut, cette négation peut être classique et celle-là ne pas l'être. Donc celle-là peut être non classique et celle-là peut être classique. Et les deux peuvent être non classiques. Donc, vous avez plein de possibilités. Freud a raison. On peut écrire que l'inconscient, hein, c'est la négation, c'est que le psychisme peut être non conscient. Le psychisme est non conscient. Mais que c'est équivalent à un non-psychisme qui n'est pas la négation du psychisme, qui n'est pas la négation classique du psychisme. C'est une négation que certains pourront dire modale s'ils veulent, mais moi je dirais qu'elle est simplement modifiée. Ça veut dire que c'est pas tout cru. L'une des bustes, il a le 1 de Freud, vous voyez. Et là, je vous raconte. Je vous donne un exemple de ces modifications de la négation que j'écris, moi, avec U et V, voyez-vous, avec psi. Je vais pouvoir projeter toute la logique classique dans une autre logique où elle va être intrinsèquement classique et vue extrinsèquement. Grâce à l'extrinsèque, je vais pouvoir avoir d'autres négations qui nient les choses de cette logique classique. Bon. Je vous donne tout de suite un exemple dans Freud. Hein, je ne vais pas prendre le texte de la négation, je vous donne tout de suite l'exemple. Regardez, comment moi je lis Freud. Maintenant, vous me direz, vous n'êtes pas obligé à faire comme ça, vous pensez qu'il faut lire je ne sais pas comment, mais moi, voilà ce que je retiens. Enfin, ce n'est pas la seule chose que je retiens, je vais citer deux articles de Freud. Mais que personne, tout le monde essaie de traduire. Bon, en Argentine, ils passent leur temps à le traduire en espagnol. En France, ils le traduisent en français. Bon, on l'a traduit en anglais. Personne n'arrive à traduire ces textes de Freud parce qu'on croit qu'il suffit de traduire pour lire. C'est pas une façon de lire, traduire. Traduire, c'est une activité très intéressante. C'est comme la philologie. C'est un très bon exercice pour celui qui traduit. Puisque c'est extrinsèque et intrinsèque entre deux langues, vous voyez. C'est un bon exercice narcissique. C'est un bon exercice de lecture. Mais c'est pas la seule façon de faire. Prenez l'exemple de l'article de Freud qui s'appelle Endlich, Unendlich, Psychoanalysis. C'est analyse finie, infinie, on vous traduit. Il y en a d'autres qui disent, mais non, vous vous trompez. Chez les Lacaniens, parce qu'ils croient imiter Lacan en disant ça. Alors, Lacan, quand il fait des remarques de traduction mal foutues, il a des arguments, hein. Et il montre bien qu'on s'est essuyé les pieds sur le texte de Freud. Bon, tandis que là, vous voyez des gens qui vous disent « Ah non, c'est pas ça, c'est analyse terminée, analyse interminable. » Bon, on a vachement progressé. De fini, non fini, fini, infini, terminé, terminable, interminable. Bon, on a vachement progressé. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est l'indéfini de Descartes dont il parle pour l'espace, à Henri Mort, etc. Non. Et puis vous avez un autre texte de Freud qui s'appelle « Unendlich ». Celui-là, Freud l'appelle Unendlich, alors ici on l'a appelé l'inquiétante étrangeté. Alors ça veut dire, Unendlich, ça veut dire inquiétante familiarité, vous remarquez. Parce que Endlich veut dire familier, et Unendlich, le non familier, ne veut pas dire non familier. Ça veut dire à la fois étranger et familier. Donc c'est l'inquiétante familiarité, hein, ou la chouette étrangeté. Vous pouvez choisir. Unendlich, c'est sûrement pas la négation de Endlich, classique. C'est pas non Endlich. Bon. Qu'est-ce qui fait que je vous renvoie au texte et que j'ai raison de dire que Unendlich,
ça va être exactement une négation comme celle de mon inconscient, Unendlich.
Qu'est-ce qui fait Freud pour faire comprendre à ses lecteurs qu'est-ce que c'est que Unendlich, que c'est pas l'inquiétante étrangeté, que c'est une inquiétante familiarité, que c'est pas la négation de son. Il recopie à la main, parce qu'à l'époque il n'avait pas de scanner et d'ordinateur, il recopie consciencieusement à la main plus d'une page d'un dictionnaire allemand. Hein. C'est pas un dictionnaire de traduction, c'est un dictionnaire allemand, un dictionnaire de la langue allemande en allemand. Il le transcrit, c'est ça qui est remarquable, si vous voulez. Il veut montrer que dans le dictionnaire publié en allemand, l'usage de la langue allemande fait que Unendlich, c'est bien ce qu'il dit, c'est quelque chose qui n'est pas le contraire logique classique, l'opposé de Endlich. Vous voyez, il va recourir à des pages, à des lignes, aux différentes acceptions, aux commentaires d'un dictionnaire allemand en allemand qui commente le mot à l'article Unendlich, pour bien montrer que Unendlich, c'est pas non. C'est pas Unendlich, c'est cosy, c'est familier, c'est home sweet home. Et Unendlich, c'est pas l'étrangeté. C'est quelque chose qui est justement de l'ordre de ce que qu'il faut qu'on construise comme répétition pour donner toute sa couleur à la jouissance et à la répétition freudienne. Hein. Ce fait que c'est satisfaisant et c'est pas satisfaisant. Bon. C'est ça l'inconscient. Quand je dis Freud, si tu as à dire l'inconscient, c'est pas le non-conscient. Qu'est-ce que vous faites de ça? Il est emmerdé. Lacan, il a trouvé une traduction magnifique. Il dit l'une bévue. Hein? Bon, à l'école lacanienne, ils disent que c'est un mathème, l'une bévue. Moi, je ne crois pas que ce soit un mathème, mais parce qu'ils ont une idée un peu facile du mathème, mais c'est un bon, c'est une belle trouvaille. C'est une belle trouvaille de Lacan, l'une bévue. Bon. Hein? C'est pas traduit, justement. C'est comme le S pour traduire le S freudien. Vous voyez, ça, Derrida, il avait compris ça chez Lacan. C'est le seul qui ait compris ça chez Lacan. Qu'il fallait aussi traduire en fonction du signifiant, des oreilles. Et donc, une bévue, ça marche très bien. Hein, c'est pas seulement la traduction par le sens. Bon. Et puis, ça peut faire commettre des erreurs. Regardez, Freud en a commis. Là, quand il signale, la façon dont il parle de Silen et Salen dans le Cachreber, il dit qu'un jour, l'étymologie montrera qu'il a raison, que même Schreber a raison. Il y a un lien entre le lac et l'âme. Donc, quand il dit non, l'œil se gourde. Mais par contre, Freud se gourde du point de vue de l'étymologie. Mais par contre, du côté de l'instance de la lettre, ce qu'il a découvert, lui, Freud, il a raison.
Silène et Salène, chez Schreber, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner très proche, parce que ça, c'est du signifiant. Bon. Donc, et alors maintenant, venons à Heinrich und Heimlich. Et ben, qu'est-ce qui emmerde Freud dans cet article qui nous écrit sur l'analyse finie et l'analyse infinie? C'est qu'il vient après essayer de nous expliquer que, voilà comment moi je lis ce texte. Si j'avais le même type de négation entre Heimlich et un Heimlich que j'ai entre Heimlich et un Heimlich, eh ben, je serais très content parce que je pourrais comme ça dire que la psychanalyse elle est un Heimlich. Mais manque de peau, en allemand, là il reconnaît dire copie pas de page de dictionnaire parce que c'est comme ça. Unendlich, ça veut dire non fini, et endlich, ça veut dire fini. Donc, on peut pas dire en allemand, on peut pas écrire le fait que la psychanalyse, c'est quelque chose qui va avoir un terme, hein, contrairement à tous les abrutis qui pensent qu'il n'y en aurait pas. Il y a un terme, mais que c'est pas pour autant fini. Ça continue. C'est toute la question de l'achèvement. C'est toute la notion de l'achèvement que vous trouvez chez même chez Heidegger avec l'achèvement de la métaphysique, de la philosophie. Hein, dans la Kerr, dans ces questions 4 chez Heidegger, le petit livre où vous avez ce texte magnifique sur l'achèvement de la philosophie et la tâche de la pensée à l'époque de l'achèvement de la philosophie. Bon, la philosophie, elle s'est achevée avec Hegel. Hegel a fait une coupure. C'est comme la fin d'une analyse. Il a achevé la philosophie, Hegel. Et d'ailleurs, nous, on est après l'achèvement de la philosophie. Mais la philosophie, ça n'empêche pas de continuer. Oui, tourne en rond, mais continue. C'est ça l'achèvement. L'achèvement, c'est la droite infinie de Bourbaki. Ça commence avec il s'appelait Desargues, le premier qui a montré grâce à la géométrie qu'une droite infinie c'était un cercle, hein, et qu'il suffit d'ajouter une lettre pour pof que ça se noue et que ça tourne en rond. Hein. Ça c'est Desargues. Ça s'appelle compactification en topologie générale. C'est les Russes qui ont appelé sa compactification. C'est un théorème d'un mathématicien russe qui dit qu'il suffit d'un. Eux-mêmes, ils étaient très épatés de l'ontologie de l'achèvement. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible, comme le phonème, qu'il suffit de prendre une lettre, on l'appelle oméga, ou petit a, ou comme vous voulez, et puis vous l'ajoutez dans le texte, vous la mettez en fonction. Hein, parce qu'un mathème, c'est un énoncé d'effet qui, mis en fonction, tient. Il faut le mettre dans une fonction, justement. Il faut le mettre quelque part. Hein. Vous voyez, un mathème, c'est une lettre A comme ça, mais ça ne fonctionne que si c'est dans un énoncé E de A. Et lui, A tout seul, il est une chaîne défaite. C'est E de A qui est une chaîne. Et vous pouvez écrire E prime de A, c'est une autre chaîne. Bon. Ça, c'est les mathèmes. Donc,
c'est moi qui tiens.
Comment ? Les énoncés qui tiennent, c'est il faut prendre un système d'énoncés où on définit parfaitement la bonne syntaxe des énoncés qui tiennent. Donc vous devez vous placer dans un système d'écriture. Et là, je suis en train de vous parler par exemple de la théorie des ensembles. Je peux vous montrer des exemples en théorie des ensembles. Par exemple, le plus simple, c'est le vide. Hein. Le vide lui-même, il a besoin d'être situé dans un énoncé pour tenir. Pas chez Bourbaki, parce qu'avec le taux de Hilbert, c'est un peu béton. Mais chez Krivine, vous avez l'écriture du vide, c'est un énoncé, mais c'est un énoncé incomplet comme dans Schreber. Comme dans les énoncés incomplets de Schreber, vous voyez, qui se finissent, comme l'a marqué Lacan, juste à l'endroit significatif. Je vais faire, hop, ça s'arrête. Dans les hallucinations de Schreber, vous avez deux sortes d'énoncés, vous avez les ritournelles et les énoncés qui s'arrêtent. Bon. Et bien les mathèmes, c'est des énoncés qui s'arrêtent, mais qui tiennent si vous le mettez en situation dans un énoncé, dans une phrase, dans un énoncé qui le fait tenir. Bon. Ça s'appelle symbole d'abréviation. C'est vrai d'un mathème cantorien, mais c'est vrai de pi qui est grec, c'est vrai de e, c'est vrai de i, c'est vrai même de l'intégrale ds, tout ça, somme ds, c'est un symbole de fonction. Symbole de constante et symbole de fonction. Moi j'ai fait un DEA là-dessus, on m'a donné le DEA, enfin, on m'a fait des histoires quand même. Et puis, on m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la psychanalyse? Je leur ai dit, ben, lisez Spinoza. Bon, parce que c'était des profs de philo, c'était Gros Richard, François Regnault et Côté, qui étaient le jury. Ils m'ont donné le DEA, c'est Miller qui n'a pas voulu me le donner, mais parce qu'il voulait me coincer. Malin. Hein.
Alors, donc moi j'ai fait un DEA là-dessus, qui se trouve à Vincennes, à Saint-Denis maintenant, dans la bibliothèque. Ça s'appelle la consistance de l'abréviation. Et à mon avis, c'est une entrée vers les énoncés incomplets de Schreber, pour voir que Schreber, c'est quelqu'un qui est lié, malgré sa paranoïa, il est lié à la lettre. Donc, quelle est le troisième remarque que fait Freud à propos de la petite fille, du petit garçon Hans qui dit que sa petite sœur n'a pas de pénis? Elle en a un, mais il est tout petit, il va dans le bureau. Alors le troisième, il dit premièrement, hein, le gosse n'est pas con. Deuxièmement, il dit comme Wundt, mais Wundt et les enfants, ils ont raison, a priori. Ils auront tort avec Freud, mais il faudra construire l'écriture qui va fonder la psychanalyse. Hein, c'est ça que Lacan fait. C'est qu'il veut fonder la psychanalyse en actes. Et cette écriture, elle est directement issue de tout ce que Lacan nous raconte sur la logique. Hein. Aussi bien les formules de sexuation que le fantasme, que la logique qu'on appelle de l'aliénation et de la séparation, tout ça pour écrire la répétition freudienne. Bon, qu'est-ce que dit Freud en troisième lieu? Hein, il se moque de Wundt, il a tort. Ah oui, Freud il revient sur cette question de Wundt trois fois dans son œuvre, dans la science des rêves, au milieu de la science des rêves. Hein, c'est là qu'il dit, c'est une Glenstellung, à chaque fois il appelle ça Glenstellung, une mise à égalité, posée d'emblée, Fingsierung, n'est jamais expliquée. Bon, depuis Tarski, c'est parfaitement expliqué, mais même, vous voyez, ça fait partie de la logique formelle, ce genre de truc. Hein, si vous dites que le psychisme est inconscient, c'est du non-psychisme. Il faut modifier la logique pour que ce soit que Freud ait raison. Et Freud a raison, parce qu'il y a d'autres négations dans la langue que la négation classique. On nous dit que c'est pas constructible. Pourquoi? Ben c'est une pétition de principe. Madame Claude Imbert qui dit que c'est pas constructible, que la logique moderne ne peut pas rendre compte de la logique grecque. Moi, je dis que c'est une pétition de principe. Parce qu'on a pas, c'est parce qu'on est tout nouveau, hein. Ça fait que deux siècles, même pas, un siècle et demi qu'on fait ça. Alors, vous voyez, on est un peu des bleus. Mais ça va. Mais vous allez voir, le freudisme avec le temps, ça va aussi, le temps va jouer aussi un rôle. C'est qu'il faut l'écrire, tout ça. Ça demande du temps. Faut le temps.
Bon. Alors, la troisième remarque de Freud à propos de cette phrase, de la phase phallique, la découverte par l'enfant des phases phalliques à la naissance de sa petite sœur, ce qui déclenche la phobie. Ben il nous dit, puis finalement, il a pas complètement tort parce qu'elle a un petit clitoris et quand elle va grandir, bon, ben, c'est pas son petit clitoris qui va devenir un traquenard. Hein. Ça va devenir quoi, un petit clitoris qui va devenir un moins petit clitoris, mais c'est quand même.
Enfin, c'est, disons, la raison anatomique, elle n'est pas la meilleure. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que l'argument anatomique. Qu'il y ait des conséquences anatomiques de la différence entre les sexes, ça c'est sûr, au moment de la castration. Mais au moment de la découverte de la fonction phallique, je crois que l'anatomie, elle n'a rien à voir, dans l'analyse que je vous propose, elle n'a rien à voir, l'anatomie, dans le fait de rentrer dans le langage par la fonction de la parole, du trauma, du malentendu des parents, de la puissance et du pouvoir de la parole, hein,
dont les parents, justement, ne savent pas servir. Alors, maintenant, je vais vous introduire. Comment est-ce qu'on peut introduire ça? Ben, je vais vous le faire très très simple ce soir. Vous voyez comment on peut introduire cette modification de la logique? C'est ce que je voudrais. Il faut que je vous raconte tout ça pour que ce soit bien simple. Je vous le raconte d'une manière simple. Regardez. Comment je vais faire pour vous le raconter d'une manière simple? Je vais effacer ça. J'efface ce tableau. Et ici, je vais vous mettre le plongement de la logique classique dans une logique non classique. Avec le plongement, je vais appeler ça même un nœud logique, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est la même situation qu'un rond de ficelle. Un rond de ficelle, vous pouvez le mettre dans l'espace, le plonger dans l'espace, comme un cercle. Hein. Un rond de ficelle, vous pouvez le. Vous n'êtes pas obligé de le nouer. Mais si vous le nouez, c'est le même rond de ficelle. Intrinsèquement, c'est le même rond de ficelle. Hein. Je vais faire un nœud logique. Au lieu de prendre seulement, comme tout le monde, la logique comme ça, voilà, la logique comme ça, c'est 0,1. C'est 0,1, et en plus, on ne sait pas si c'est 0,1 ou si c'est 0,1 comme ça. Voilà. On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a deux valeurs. On ne sait pas si c'est les valeurs nécessaires ou si c'est les valeurs apophantiques.
Les logiciens, ils patinent. Ils font encore du patin à glace avec ça. C'est la grande glissade.
On fait pas, on prend pas le temps depuis Frege à voir que pour arriver à ce que Frege dit qui est juste, que la vérité est nécessaire à une fonction spécifique dans l'écriture et dans la parole, que la vérité aussi dans la parole elle a une fonction spécifique apophantique. Hein, c'est l'histoire de la rumeur. Une dame, ça c'est le président de la République qui doit parler comme ça, c'est pour ça que je suis scandalisé par ce qui se passe en France depuis 5 ans. On accepte qu'un type, qui a une fonction publique, s'essuie les pieds sur tout ça comme si ça, la parole n'existait pas. Parce que ça n'existe plus pour personne chez les contemporains. Vous voyez ? Regardez, je vous donne un simple exemple. Besson, il dit, on est dans les lois de la République. On chasse les étrangers, là, Romain Michel, là, qui sont un peu chiants, un peu emmerdants. Mais on reste dans les lois de la République. Mais ils ne se rendent pas compte du tout que, bien sûr, il faut un cadre juridique pour que les choses se passent dans un État contemporain. Il faut bien sûr un composant juridique. Et il faut le respecter. Mais il ne suffit pas de le respecter. Parce que si, quand on respecte même le cadre juridique, on profite de paroles mauvaises qui favorisent des saloperies, vous voyez, c'est un crime politique. Voilà. Seulement, personne ne lui dit ça, vous comprenez ? Regardez, même le ministre des Affaires étrangères, il dit, j'ai pensé démissionner, puis je démissionne là, parce que démissionner, c'est une traîtrise, c'est une lâcheté, qu'est-ce qu'il dit ? Démissionner, c'est une démission. Non, démissionner, c'est une...
un abandon de poste.
Oui, c'est comment il appelle ça ?
C'est une lâcheté.
Oui, mais il a dit que c'était une... démissionner, c'est... déserter, voilà.
Déserté.
Bon, mais c'est pas vrai. Eh, démissionner, c'est un acte, déserter, c'est une trahison. C'est un acte tout à fait négatif, mais c'est un acte aussi. Bon, donc de qui se moque-t-on ? C'est que vous voyez que nous sommes dans une civilisation à cause de Lacan et à cause de moi, puisque je fais rien pour que ce soit autrement. Hein, donc je suis sûrement le premier responsable de tout ça, et je suis extrêmement responsable du fait que j'ai pas voulu me bagarrer avec ces petits cons de psy, parce qu'ils sont tellement cons que ça vaut même pas le coup. Il faut, mais seulement voilà le problème, c'est qu'ensuite ça a comme une traînée de poudre. La parole existait déjà pas beaucoup depuis la guerre, depuis avant Einstein, lui il considérait que la parole existait, puis ça a disparu, puis ça augmente. Aujourd'hui on est dans la communication et dans la représentation, mais on n'est pas dans l'acte de dire ça n'existe plus. Et c'est pourquoi, parce que tout ce que je fais là, ce que je vous raconte, ça sert à rien puisque tout le monde s'en fout. Bon. Alors, et je suis responsable de ça, je prends la responsabilité de dire que Lacan a mis en place une situation qui est un traitement de cheval pour l'humanité, et pour les Français en premier lieu, puisque c'est écrit en français et c'est dit en français. Un traitement de cheval, ça veut dire, ou vous le faites et c'est vous qui le ferez, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place, ou bien ce sera la catastrophe, la merde. C'est ce que j'appelle un traitement de cheval, vous voyez. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est pire que la crise quand vous avez une crise médicale, vous savez, on attend que ça passe. Là, c'est pas qu'on attend que ça passe, c'est ou il y aura de la psychanalyse ou il y aura rien, mais il y aura pas de pseudo-psychanalyse. Ça se voit trop que les psychothérapies, c'est plus de la psychanalyse du tout. Vous voyez, ils ont été le vendre, la psychanalyse, à l'État pour faire des psychothérapies d'État. Parce qu'on parle de crime d'État. J'arrête là-dessus pour vous dire que comment ça marche, la logique plongée dans une autre logique. Regardez, c'est très simple. Vous voyez, ma table de vérité, PQ, comme ça. Ben, au lieu d'appeler mes valeurs 0, 1, je vais mettre U, U, V, V. Je vais mettre ici U, V, U, V. Et je fais la même chose. Et je fais la même chose qu'en logique classique, mais je change les lettres. Et ces lettres, elles n'ont plus la spécificité extrinsèque d'être dans cette confusion dont les logiciens n'arrivent pas à sortir, en savoir est-ce que c'est le 0 et le 1 de boule, est-ce qu'il n'y a que E, ou est-ce qu'il y a des énoncés, est-ce qu'il n'y a que c'est le 2 là, voyez-vous, ou est-ce qu'il y a des énoncés dialectiques entre les deux. Bon, il y en a, mais voilà. Le temps intervient dans la logique, contrairement à l'idée de Frege. On ne peut pas obtenir la logique parfaitement de la nécessité, comme le souhaitait à juste titre Frege, qui a une intuition de la vérité très forte. Il a raison de dire qu'on ne peut pas définir la vérité à moins que ce soit cette non-définition de la vérité qui est la définition de la vérité. Ça ne sert à rien de dire que quelque chose est vrai pour ajouter quelque chose à la vérité de cette chose. Bon, vous pouvez marteler à quelqu'un c'est vrai, vous voyez, on en est aujourd'hui je l'ai lu dans le journal, je l'ai vu à la télé, mais c'est pas vrai pour autant. Bon, c'est pas ça qui est vrai. C'est pas comme ça. La vérité, ça marche autrement. Eh bien, vous voyez, moi, je remplace 0 et 1 par UV, et là, à la place de U et V, je vais pouvoir mettre 0 et 1 quand je voudrais le commenter. Donc, j'aurai un plongement qui sera comme un cercle, vous voyez, quand j'aurai phi de 0 et 1. Donc, je pourrais faire phi du faux nécessaire et du vrai nécessaire. Et puis je pourrais faire un phi de grand S et petit a. Je pourrais faire un grand phi de grand A et petit a prime. Ça, c'est la suite de ce que je veux vous montrer. On va revoir ça mardi. Hein. Voilà. Et là, on a les deux logiques dans lesquelles on va pouvoir construire l'intersection de ces deux logiques. Hein. Ça, c'est S a et ça, c'est a a prime. Voilà. Parce que, alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Regardez. Ça donne, ici, je vais avoir un P. Hein. Donc, je vais avoir P ici et Q. Je vais avoir P implique UV de Q. Alors, je peux tout de suite vous écrire le résultat. Maintenant, ce qui va être difficile à écrire, c'est l'écrire algébriquement. Hein. Mais ici, je peux tout de suite vous écrire le résultat. Quelle est la table de l'implication matérielle en 1, 0? C'est 1, 0, 1, 1. Moi, j'ai qu'à le faire comme ça. Regardez, c'est très facile. Ça paraît tout bête. Seulement, le problème, c'est qu'il va falloir l'écrire en maths. Il va falloir l'écrire mathématiquement. Là, je suis en train de transposer toute la logique classique avec mon U et mon V. Bon. Mais comment définir phi? Comment définir la fonction qui, de la logique de Boole, V2, comme ça, qui s'écrit 0, 1, va me faire correspondre par phi de UV, hein, tous les énoncés de la logique de Boole qui sont basés sur 0, 1, et puis alors là-dedans il y a toutes les fonctions de Boole qui sont ça c'est des fonctions de Boole, ça, c'est des fonctions logiques, toutes les fonctions logiques, je vais les ajouter, je vais faire correspondre à ça quelque chose qui doit me correspondre à ma logique qui est ma logique modifiée, qui est que je vais appeler phi UV de V2. C'est la logique modifiée, hein, et qui est égale à U et V, dans lequel U va fonctionner comme le 0 et V comme le 1. Bon. Comment écrire cette fonction? Bon. Alors c'est très facile, regardez. Phi de P, une lettre P comme ça, vous voyez la lettre P. Hein. Phi de P, ici c'est phi de P et ici c'est phi de Q finalement. Et ici, c'est phi de P et phi de Q que je vais mettre. Bon. Et ici, c'est l'opération implication avec indice Q et P. Je vais définir tout ça. Hein. Oui, je vous explique vite. Hein. UV de X flèche Y, ça sera égal à x flèche UV de Y. C'est ça que je vais définir pour définir la phi complètement. Bon. Mais d'abord, regardez comment je peux définir. Regardez comme c'est des fonctions simples. Phi de P, regardez comment je le définis. C'est égal à U multiplié par P, hein, plus... Non, j'ai dit U, c'était 0. Donc c'est V multiplié par P plus U multiplié par P plus 1. Regardez, c'est imparable, cette fonction. Comme elle est bête, cette fonction. Regardez comme elle est simple et bête. Regardez, si P égale 0, ça devient 0, ça devient 0, 0 plus 1, ça devient 1. Reste U. Donc, phi de 0, avec cette définition, vous voyez que phi de 0, c'est U, hein, phi de 0, c'est U, et phi de 1, Si P vaut 1, puisque on vous dit en logique classique que P ça peut valoir que 0 ou 1, c'est-à-dire que c'est deux valeurs à considérer. Vous avez ici phi de 1, ça fait V multiplié par 1, ça fait V, plus U multiplié par 1 plus 1, ça fait 0, on a le de boule, hein. Donc c'est 0. Donc vous avez phi de 1 égale V, voyez. Donc vous allez bien avoir le U qui va fonctionner comme le 0, et le V qui va fonctionner comme le 1. Bon. Alors maintenant, c'est plus compliqué. Alors là, c'est ma plus grande découverte. C'est la chose dont je suis le plus fier. Ça intéresse vraiment personne. J'en ai parlé avec Guitard. Il a dit, oui, ça marche, ton truc, mais il doit y en avoir d'autres. Bon, alors j'ai cherché pendant plusieurs années. Ça m'a demandé au moins des mois, plusieurs années.
J'ai fait des carnets pour en chercher d'autres, pour voir comment... Et puis, la solution que je vous montre aujourd'hui, il s'est révélé que toutes les autres, il y en a d'autres, il a raison, Guittard, il y en a plein d'autres. Hein, des manières de plonger comme ça, la logique classique, dans un espace où il y a des U, des V, une plus grosse algèbre de Boole, vous voyez. Vous prenez l'algèbre de Boole avec 0,1 et vous la plongez dans une grande algèbre de Boole. Vous avez un treillis de Boole où il y a plein d'éléments, et puis vous prenez un U quelque part, un V. Alors là-dedans, vous avez 0 et 1 aussi, vous retrouvez 0 et 1, mais vous prenez un U et un V quelconque. Guittard, lui, il a montré qu'avec 0, on pouvait prendre n'importe quel élément pour faire une logique classique. Et moi, je lui dis qu'on peut prendre n'importe quel élément pour le vrai, à la place du 1, mais on peut aussi prendre n'importe quel élément pour le faux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que la théorie des nœuds, enfin disons, dans la théorie des nœuds, il y a une théorie des ensembles vides que Lacan, il nous indique le chemin d'une théorie des ensembles vides comme Cantor a découvert une théorie des ensembles transfinis. Il y a plusieurs infinis avec Cantor. Hein. Jamais personne n'a construit une algèbre et une théorie des ensembles où il y aurait plusieurs vides. Vous voyez, il y a plusieurs faux, il y a plusieurs vides. Hein? Pourquoi ça marcherait pas si on fait une théorie avec une infinie, enfin tous les nombres transfinis de Cantor à Gödel, hein? Vous en avez un paquet, vous voyez, ça commence par Aleph 0, mais ça, ensuite il y en a, ça s'arrête plus, hein? Bon, les transfinis, Lacan il en parle. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas prendre une construction duale, c'est-à-dire qu'on retourne ça comme une crêpe et on a plein de vides. Alors vous voyez, ça devient intéressant parce que le vide, justement, c'est quelque chose qui est partout et qui est nulle part. Alors s'il y en a plein, ça va quand même faire drôlement flipper ceux qui n'aiment pas les Roms, hein, parce que c'est pire. Ah ben, c'est des étrangers, vraiment, ils sont partout et nulle part, vous voyez, comme les Roms, comme les Juifs, comme les Aztèques, comme tous les autres, comme tous ceux qui ne sont pas chez vous, voyez. C'est quand même assez inquiétant, ça doit, à mon avis, déranger la nuit. Il y a certains qui vont avoir comme ça un ensemble vide qui vient se coller sur leur visage, vous voyez, comme dit Lacan de la lamelle dans position d'inconscient, vous voyez. Ça fait des cauchemars. Vous mettez, tout à coup, vous vous retrouvez avec, dans le corps ou sur le corps, quelque chose, une espèce de rustine vide qui vient vous coller. Bon, si vous n'arrivez pas à l'écrire bien, ben ça colle. Hein, pour s'en décoller, il faut arriver à l'écrire. Et ça, c'est une proposition. Alors, je vous explique la définition pour un connecteur quelconque. Regardez. Pour un connecteur quelconque, pour arriver à écrire celui-là, par exemple, hein, eh bien, si j'ai, voilà, phi de UV de X flèche de X θy, voilà, prends deux formules quelconques, c'est des phi de P, c'est des phi de P ou Q, c'est n'importe quelle formule à la place de X et Y. Ce qui m'intéresse, c'est de définir le plongement du connecteur logique. Ça va marcher pour l'identité, ça va marcher pour la négation. Hein. Voilà. Regardez, ça s'écrit comme ça. Il faut commencer par écrire UV, le produit booléen, c'est-à-dire U inter V, hein, le produit booléen, plus U facteur de V plus 1, prenez la négation de V, multiplié par X taux Y. L'image de taux, ça va être taux. Avec ce coefficient. Plus U plus 1, V, hein, et vous prenez ici X θ étoile, ou appelons-le θ chapeau de Y. Qu'est-ce que c'est θ chapeau? C'est le dual de De Morgan de θ. Voilà. Et bien là, vous avez écrit un connecteur qui est un plongement de ce connecteur, qui représente exactement la logique classique d'une manière intrinsèque dans le nœud logique, hein, mais qui se trouve situé dans un espace plus grand. C'est, on l'a balancé là-dedans, on a UV, les deux ensemble, ils forment une logique de Boole B2. Hein, ça a toutes les lois logiques sont transcriptives. Seulement, tous les autres éléments de cet algèbre de Boole, ils vont vous permettre de modifier, de venir faire des trucs dans votre nœud logique, de venir, disons, moi je dis la modifier parce que c'est la modaliser, si vous voulez. Ça va être, vous pouvez ensuite construire plein d'autres négations. D'autres, vous
Vous pouvez écrire toutes sortes de relations logiques, et vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi, par contre. C'est extrêmement cohérent. Hein.
Mais c'est la logique modale. Et avec ça, vous allez pouvoir écrire justement des opérateurs comme cette négation qui dit il est faux que X et il est faux que non X. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous allez trouver la solution du patient de Freud qui dit à Freud, j'ai rêvé d'une femme, dans mon rêve, cette femme, vous allez dire que c'est ma mère, moi je vous dis que c'est pas ma mère, et ben voilà, le patient, il a besoin d'écrire ça. Il sait que ça peut s'écrire, mais il n'arrive pas à l'écrire. Alors il va voir un psychanalyste pour pouvoir. Le psychanalyste lui sert Freud comme autre, vous allez dire que c'est ma mère, moi je dis que c'est pas ma mère. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il essaye d'écrire, le patient ? Il essaye d'écrire cette négation qu'on va pouvoir construire là, qui dit, comme de l'inconscient d'ailleurs, il est faux que ce soit conscient, il est faux que ce soit non conscient. Vous voyez ? Et Freud, il nous a fait rentrer dans ce monde, hein, où nous avons affaire à ces choses qui prennent ce statut logique et lié à l'écriture. Alors, hein, moi, j'ai aucune hypothèse, comme Newton, sur la raison de cet impératif de l'écriture, de cette fonction de l'écriture, du fait que le sujet, il sait écrire, je dirais, il sait lire avant de savoir écrire.